sur Beurre FM, question de tout avec Philippe Robichon.
Question de nuit autour du nouveau récit d'Afid Agoum qui s'appelle « Quelle nuit sommes-nous ?» aux éditions Farago. Quelle nuit, parce que finalement c'est un livre qui se passe beaucoup la nuit.
Oui.
Hein, votre héros est insomniaque.
Oui, en fait à partir de ses 15 ans, il a cessé de voir la nuit comme quelque chose qu'il faut éviter. Et il s'est mis à exister la nuit. Donc à 15 ans, en fait, mon personnage fait une fugue. Et du coup, il y a une espèce d'appétit de vie qui lui fait prolonger la vie, même la nuit. Et le roman commence quand il a 33 ans. Il habite à Paris, il va partir à Venise. Et je le prends comme un début de voyage sur une route. J'ai toujours aimé j'adore ce film de David Lynch qui s'appelle Lost Highway. Et j'ai voulu que mon personnage soit sur cette route qui est vraiment une route où tout est possible.
Mmh.
Et qui se passe la nuit avec ces bandes blanches qui défilent. Et c'est le début du roman. C'est la fin aussi de Lost Highway, le film de David Lynch.
Qu'on retrouve dans votre site aussi. Hein, sur votre site, parmi les personnes recommandées et recommandables.
Ah, oui.
Parmi votre univers. Pourquoi est-ce qu'il a quitté sa famille à 15 ans ?
Ben, Samuel Tristan, c'est un personnage qui nous livre de sa vie quelques moments de son enfance. Je crois que j'en parle deux fois dans le récit. Et à part ça, on ne connaît de lui que cette tranche de 15 ans à 33 ans.
On sait qu'il y a une forme, pas de secret lourd, mais enfin quelque chose qui fait qu'il devait partir de chez lui.
Oui, c'est un livre qui part du secret, parce que la nuit c'est aussi le secret, et la nuit c'est aussi cette période qu'on ne connaît pas de lui et qui nous projette sur notre propre enfance, sur notre propre nuit, nos propres démons.
Ouais.
C'est comme ces ronces sur l'île, c'est vraiment tout ce qu'on combat dans notre vie. Et j'ai voulu... C'est exprès, j'ai voulu que chaque personne puisse s'interroger sur sa propre enfance. Donc je ne livre rien, à part deux, trois images comme ça,
ouais.
Où je distille un petit élément, un petit indice par rapport à la dispute qu'il a avec son père, où il se rend compte que son père n'est pas quelqu'un de tolérant. Et puis une image à la
fin. Mais c'est plus compliqué que ça finalement.
Ah oui.
C'est lui à 15 ans qui se dit que son père n'est pas tolérant.
Oui, c'est lui qui se dit ça. Et il y a une forme de punition un peu dans cette fuite.
Alors il part pour une fuite, c'est une fuite, hein. Il part à l'étranger d'ailleurs.
Oui. Ouais. En fait, il change même d'identité puisque une semaine après, il s'appelle Samuel Tristan et on ne connaît jamais son vrai nom.
Ouais. D'ailleurs, pour pas connaître son vrai nom, il a deux prénoms pour un tout seul.
Voilà, en plus.
Ouais.
Donc un prénom d'origine hébraïque, en fait, qui vient de l'Ancien Testament. Et Tristan, un nom plus celte, et en même temps plus mythologique, parce que j'ai toujours aimé cette histoire de Tristan et Iseu. Donc j'ai trouvé que c'était un beau nom,
ouais,
pour un personnage romantique, idéaliste.
Vous avez vous-même quitté vos parents à 15 ans ?
Oui, sauf que moi je suis revenu deux jours après.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a ramené, la réalité, le manque d'argent ?
Non, c'était simplement que c'était fait, j'avais fait mon coup, montrer que j'existais, qu'il fallait me laisser tranquille, parce que c'est un roman qui parle de l'adolescence et de la jeunesse, et j'ai voulu parler de ça, puisque c'était important de montrer qu'à l'adolescence, c'est un âge où on est très fragile et en même temps, on est plein d'espoir, et que cette force peut devenir négative, donc il faut vraiment faire attention aux adolescents, quoi, parce qu'ils sont en train de se construire, et quand on construit, même si c'est une belle chose, c'est fragile. Les fondations sont pas encore solides, et donc j'ai voulu que mon deuxième roman parle de l'adolescence.
Mais comment ont réagi vos parents quand vous êtes revenu?
Ça a réglé beaucoup de choses, puisque moi c'était surtout une réaction contre mon père qui était trop autoritaire. Il fallait vraiment travailler à l'école, être le meilleur, si j'étais le deuxième c'était la catastrophe, etc. Et donc c'était une espèce de libération, puisqu'il a compris que ce qui comptait, c'était que je sois heureux, que c'était pas cette urgence comme ça de toujours être le meilleur et tout ça. Donc, j'avais pas envie que ces angoisses soient les miennes. Et du coup, le fait de partir, ça lui a montré qu'il tenait à moi, en fait. Et du coup, ça a apaisé beaucoup de choses. Après mes 15 ans, même s'il y a toujours eu, parce que bon, il est toujours resté exigeant, mais c'était beaucoup plus calme.
Mmh. Alors, votre héros, Samuel Tristan, donc, quand il part, va vraiment à la quête de ses origines, puisqu'il fait l'Espagne, il va en Kabylie, il va au Maroc, il va jusqu'à Jérusalem, donc il fait le tour de ses origines, finalement.
Exactement. Ouais, ouais. C'est un voyage qui part du Maroc, qui va justement en Algérie, qui passe par l'Égypte, Alexandrie, ensuite à Beyrouth, et qui va jusqu'à Jérusalem, c'est la ville qu'il veut absolument voir. Et ensuite, il a le désir d'aller sur les traces de Rimbaud. Et il n'arrivera jamais jusqu'à Aden. Et c'est à Sanaa qu'il stoppe son voyage. Et on le retrouve au début du roman, à Paris, juste avant de partir à Venise, son ultime voyage. Donc, et Venise, ça vient concrétiser tout ce voyage, puisque Venise, c'est vraiment la ville qui allie l'Occident et l'Orient.
Est-ce que vous avez écrit le livre que vous aviez envie de lire ?
Oui, je me sens très proche de ce livre en plus. C'est un livre qui me touche beaucoup plus que Les Avenirs, parce que Les Avenirs, c'est un livre que j'ai écrit, travaillé, il y a une distance d'auteur. Et Quelle nuit sommes-nous, c'est un livre... J'ai toujours voulu parler de cette période de l'adolescence et du voyage aussi. Et du coup, j'ai eu beaucoup plus de proximité avec le texte. Et je sais pas, j'ai beaucoup d'attachement avec ce texte.
Mais c'est un livre que vous avez écrit en deux temps, hein, parce que vous l'avez commencé à Venise,
oui.
Vous l'avez mis dans un tiroir et vous l'avez ressorti du tiroir.
Voilà. J'ai eu la chance d'avoir un deuxième roman où l'inspiration était déjà là. J'ai pas eu à me confronter face au vide et à me dire, surtout que le deuxième roman c'est très difficile, on vous attend au tournant, surtout si le premier était couvert d'éloges et tout ça. Donc, grâce à ce livre aussi, c'est peut-être aussi pour ça que je l'aime beaucoup plus, c'est que j'ai passé ce cap-là.
Ouais.
Et c'est un cap très important quand on veut faire de l'écriture son métier.
Qu'est-ce qui reste dans vos tiroirs ?
Ben là, je travaille un troisième roman, mais qui part vraiment d'une nouvelle aventure. J'ai plus de cartouches dans le...
Et voilà, c'est ça. Bon, au bout d'un moment, une fois qu'on a vidé ses tiroirs, il faut s'y remettre vraiment.
Voilà, ouais, c'est ce que je suis en train de faire, oui.
Ouais. Mais sur l'adolescence, vous avez terminé ?
Je pense pas. C'est comme sur le rapport au père, c'est comme sur le rapport à l'identité ou à l'écriture. Parce que je parle aussi toujours d'écriture et de livre. Les Avenirs, c'est un livre sur l'écriture, puisque c'est un vieil homme qui se reconstruit par l'écriture. Et Quelle nuit sommes-nous, c'est un livre sur la lecture, sur les livres, puisque Samuel Tristan ne peut pas écrire. Ce qu'il construit, c'est la lecture, c'est les livres, mais d'une façon passive. Et peut-être que ce qui lui manque, c'est d'être acteur au monde. C'est pour ça que c'est un personnage qui n'aime pas totalement, qui ne vit pas totalement, il est toujours dans la fuite. Mais ce qui pourrait l'ancrer dans le réel, c'est peut-être l'écriture, et ça lui manque. Donc j'ai voulu parler de cette impossibilité d'écrire. Et les thèmes de l'adolescence et de la famille, de l'identité, je pense que ça, c'est inépuisable. Le troisième roman parle aussi un peu de ça.
Vous êtes comme le personnage de votre livre, vous vivez la nuit ?
Non, ça s'est terminé.
Ouais.
C'était une période de ma vie où c'était important d'aller puiser la poésie, justement, parce que c'est l'espace de la poésie. Et aujourd'hui, je pense que ma nuit est plus intérieure. Elle m'accompagne même le jour. Et... Quand on écrit, la nuit, elle vous quitte jamais, en fait. Parce que on cherche toujours le contre-jour. Moi, quand je vois une chose dans le métro, quand je vois une chose dans la vie, un acte quotidien, que je regarde la télé, je regarde beaucoup la télé pour m'inspirer du présent, et ben j'essaie toujours de décrypter ce qu'il y a derrière, l'envers du décor. Et je pense que c'est ça, la part de nuit.
Mais les gens qui vivent la nuit sont déconnectés d'une certaine réalité.
Moi, je me sens très connecté, au contraire.
C'est des sauvages.
Oui, moi, c'est plutôt une quête de liberté que j'ai. C'est le sauvage qui est en moi, il est mûr maintenant. Avant, j'étais beaucoup plus sauvage. Et là, aujourd'hui, non, j'ai mûri, j'arrive à 33 ans. Et je pense que j'ai passé un cap. La maturité est là et mon regard sur le monde est beaucoup plus apaisé. Je me sens beaucoup plus fort qu'avant. Et du coup,
pourtant le monde n'est pas en paix. On ne peut pas dire qu'on vit dans un monde.
Non, justement, l'affronter, je me sens beaucoup plus fort. Je m'en protège moins.
Ouais.
Avant, je pense que c'était une protection aussi.
C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui fait jamais le jour, qui fait la nuit. Par exemple, vous dites qu'il fume que la nuit. Il fume pas le jour.
Ah oui. Parce que j'ai toujours eu plaisir à fumer la nuit. Pour moi, fumer la nuit ou lire la nuit ou boire un verre de whisky la nuit en écrivant. C'est des choses qui sont...
C'est affreux ce que vous racontez.
C'est des choses qui sont liées à des auteurs que j'aime. Tu vois, comme Marguerite Duras ou Beckett.
Mais est-ce que les gens qui vivent la nuit ont aussi une vie le jour ou alors ils dorment toute la journée?
Non, justement, c'est... Moi, quand je décris Samuel Tristan, en fait, qui dit qu'il vit la nuit, c'est qu'il la repousse jusqu'à l'extrême. Et c'est vers 5 heures du matin qu'il dort 2-3 heures. Enfin, c'est la vision, moi, que j'ai de l'insomniaque. C'est quelqu'un qui ne passe pas sa journée à dormir, mais au contraire, qui voudrait que ses 24 heures de vie soient remplies de vie, justement. Mm. Qu'on ne les donne pas au néant, à la nuit, au sommeil, à l'inactivité.
Ouais.
Mais qu'il y a tellement de livres à lire, il y a tellement de choses à faire.
Mais on ne peut pas tout faire, de toute façon.
Mais justement, c'est une espèce d'angoisse. C'est aussi une peur de la mort, je pense.
Mm.
De se dire qu'on a trop peu de temps à vivre, et donc on veut tout optimiser.
Mais les gens qui vivent la nuit et qui dorment le jour se sentent souvent coupables justement de ne rien faire. D'avoir perdu leur journée.
Ça, c'est une autre partie de la population des insomniaques. Moi, mon personnage, c'est plutôt quelqu'un qui a envie de vivre justement.
Aujourd'hui, c'est réglé, vous avez un rythme normal.
Ah oui, hein? Non, aujourd'hui ça va.
Ouais.
Aujourd'hui,
vous faites vos nuits.
Je suis complètement équilibré, oui. Non, j'ai une vie très normale en fait. J'ai une vie normale et ce qui change, c'est l'intérieur. C'est-à-dire que l'extérieur est normal, j'ai une vie complètement dans le présent, mais l'intérieur est tout le temps bouillonnant et plein d'acuité, de recherche. Ça s'éteint jamais.
Sur Beurre FM, question de tout avec Philippe Robichon.
Quelle nuit sommes-nous ? C'est le titre du nouveau récit d'Afid Aghoun, qui est notre invité ce matin aux éditions Farago. Quelle nuit, puisque vous l'avez compris, c'est un livre qui se passe la nuit. La nuit est très importante. Pourquoi est-ce que vous écrivez aujourd'hui ? Est-ce que vous savez, est-ce que vous donnez un sens à votre écriture ?
Ben, j'écris pour... Déjà, j'ai un plaisir énorme à écrire, et j'ai toujours eu ce plaisir. Mais en même temps... Parallèlement, il y a ce côté besoin très fort. C'est-à-dire que je sais que je pourrais pas faire autre chose. J'ai déjà essayé, puis j'étais étudiant, j'ai été salarié tout en étant étudiant pour payer mes études.
C'est ça la vraie vie.
Et ça a toujours été une souffrance.
C'est ça quand même la vraie vie. Vous disiez, j'ai une vie normale. La vie normale, c'est peut-être ça. Là,
non, moi je pense que la vraie vie, c'est selon chacun. C'est-à-dire si vous rêvez d'être peintre et que vous ne l'êtes pas, vous êtes malheureux. Vous n'êtes pas dans votre vraie vie. Moi, j'ai toujours rêvé d'être écrivain. Donc je suis dans ma vraie vie.
Voilà, c'est ça, vous êtes dans la vraie vie par rapport à vos objectifs.
Ah oui, sinon la vraie vie en gros ça n'existe pas objectivement. Chacun a ses aspirations.
Mais dans la normalité, parce qu'on parlait de normalité tout à l'heure, vous disiez j'ai à peu près une vie
oui,
normale.
Oui, mais dans la normalité,
c'est pas normal.
Dans la normalité, vous allez dans certains quartiers, vous voyez toutes les personnes habillées de la même façon, le conformisme. Si c'est ça la normalité, moi j'en veux pas. Moi j'ai toujours voulu vivre à ma façon. Et pourquoi j'écris ? C'est pour construire une liberté. Moi, j'ai jamais voulu d'un travail où je donne de mon temps et de mon énergie à un patron qui ne me connaît même pas, qui ne me respecte pas. J'ai toujours voulu être libre. Et très tôt dans l'enfance, j'ai eu un besoin d'être libre parce que mes parents étaient ouvriers, que vivre de cette façon, je l'ai jamais voulu. Et je me suis toujours dit que jamais de ma vie, je travaillerai de cette façon. Et j'userai ma vie de façon aliénée dans un travail qui ne m'apporte rien, intellectuellement, physiquement, matériellement. Mmh. Donc, c'est une façon d'exister dans la pure liberté. Et cette façon-là, moi, je l'ai trouvée dans l'écriture. J'aurais pu être autre chose, j'aurais pu être musicien ou...
On comprend votre père finalement qui disait alors travaille à l'école et qui vous mettait,
ah oui.
qui vous mettait des objectifs.
C'est pour ça que on s'est réconcilié très vite. C'est que c'était très difficile, mais c'était comme ça qu'il fallait faire. Surtout que lui n'ayant pas été à l'école, pour lui c'était primordial.
Mm-hmm.
Mais ça aurait pu mal tourner. C'est-à-dire que quand on force quelqu'un à faire quelque chose, moi il s'avère que j'ai réussi, mais ça peut être aussi destructeur.
Vous avez réussi à quoi?
J'ai réussi à faire ce que je veux, c'est-à-dire devenir écrivain.
Mais par exemple, scolairement, vous êtes arrivé à quoi ?
J'ai deux licences, histoire de l'art, lettres modernes. J'ai un DUT métier du livre. J'ai fait ce que j'ai voulu, en fait. Tout ce que j'ai voulu faire...
Vous l'avez fait, mais ça ne s'est pas traduit par un métier, par une situation...
Non, parce que faire histoire de l'art ou lettres modernes, c'était pour le plaisir d'apprendre des choses et aiguiser cette conscience du monde, de l'histoire, de l'humanité. Et c'était ça mon travail. Si j'avais voulu apprendre un métier, je l'aurais fait, ou si j'avais voulu devenir enseignant, je serais devenu, mais j'ai pas eu cette vocation. Je me suis jamais dit, tiens, après ça, tu vas continuer, tu vas devenir enseignant. C'est pas un métier que je voulais faire. Faut avoir une autre force, un autre courage. Et moi, cette force-là, elle était tournée vers l'écriture.
Ouais. Mais quelle est l'utilité des hommes d'écriture aujourd'hui?
Sans livre, sans écriture, il y aurait pas d'humanité, il y aurait pas de société. C'est une des premières inventions qui a fait que les humains se sont organisés, qui ont écrit des lois, qui ont organisé le commerce. Sans écriture, il n'y a rien. Il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas d'histoire de l'art, il n'y a pas d'histoire tout court. Il n'y a pas de relais entre les humains. Il n'y a pas de relais entre les époques. L'écrivain, c'est une chose sacrée. Un écrivain, c'est quelqu'un de sacré. Au même titre qu'un boulanger qui vous nourrit. Il faut ces deux nourritures.
Vous avez commencé à écrire avec une vieille machine à écrire?
Oui, que j'avais acheté à Vaux-en-Velin, aux puces de Vaux-en-Velin.
Et aujourd'hui?
Elle est chez mes parents, pleine de poussière, et dans mon musée personnel. Et aujourd'hui, je travaille à l'ordinateur.
Ouais. Ça change quelque chose au rythme de l'écriture, la façon?
C'est beaucoup plus facile.
C'est vrai?
Ah oui.
Parce ça modifie que... la façon d'écrire?
Non, moi j'écris à la main aussi. J'écris, je corrige à la main sur mes imprimés. Mais c'est beaucoup, techniquement, c'est beaucoup plus... facile, parce que c'est une construction qui allie le concret et l'abstrait. Moi, je m'y suis fait très très vite.
Qu'est-ce que vous allez faire de votre notoriété naissante et de votre identité cosmopolite?
Continuer à écrire.
Ouais.
Là, mon objectif, c'est de travailler mon troisième roman et peut-être d'écrire une pièce de théâtre que j'ai déjà travaillée. Ça, elle est au fond du tiroir. C'est pas du roman, c'est du théâtre. Mais j'ai une pièce que j'ai envie de retravailler. Et c'est de produire, d'écrire plus. Je pense que je travaille pas encore assez. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses.
Vous êtes vraiment encore au stade de l'artisanat, là?
Oui, je suis encore le diesel qui n'a pas encore...
C'est qu'on est passé au HDI maintenant.
Ah oui, il faudrait que je me mette...
Faudrait y penser.
Non, mais en fait, j'ai envie d'être patient et de travailler, de prendre le temps de faire les choses. Parce que j'ai envie d'écrire des livres de qualité, j'ai pas envie d'écrire des livres où il y a un thème, où il y a une histoire et seulement ça. J'ai envie qu'il y ait toujours cette continuité dans l'écriture. Et pour ça, il faut être patient, il faut travailler un peu comme un orfèvre. Et pour ça, ça demande une résistance à des choses extérieures, ça demande de ne pas penser à sa notoriété, mais à travailler dans son coin. Puisque quand on veut devenir écrivain, ça ne veut pas dire qu'on veut passer à la télé ou devenir chroniqueur ou je sais pas, d'émission à la télé ou je sais pas. C'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'écrire des livres.
C'est pas ce que ça veut dire pour vous, maintenant.
Oui, moi...
Alors que vous auriez tout pour ça, aujourd'hui.
Oui, on m'a déjà proposé. Moi, c'était sur Canal+, pour faire des chroniques. Et j'ai même pas voulu aller au casting. Enfin, parce que c'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'écrire. Et d'écrire pas seulement du roman. Il y a le théâtre qui m'intéresse, le cinéma, puisque j'ai eu la chance de pouvoir adapter mon premier roman en long métrage. Et j'en suis à ma troisième version, donc j'ai envie de travailler le scénario. Et mon métier se situe dans l'écriture et aussi dans l'image, mais pas dans la représentation de ma personne. Ça, c'est autre chose.
Et paradoxalement, sur votre site, il y a plein de photos de vous.
Mais c'est par solidarité envers les petits journaux, figurez-vous. Parce qu'en fait...
Moi, ça m'a surpris, par exemple, ça.
Écoutez, il y a... Non, mais c'est très, très concret. C'est que... Moi, j'ai des photos dans des agences comme Gamma ou d'autres agences, Opal. Et pour certains journaux de province, par exemple, ou des magazines, c'est très cher pour eux d'acheter ces photos. Donc, j'en ai mis libre de droit sur mon site. Ou quand je fais des rencontres des signatures. Et du coup, c'est par solidarité pour qu'ils puissent avoir des photos. Mmh. On me l'a demandé une fois et ensuite, ça s'est répété.
Et finalement, il vaut mieux avoir des bonnes photos que des photos...
Voilà.
Des photos, oui, claquées.
Surtout de nos jours, il faut contrôler son image.
Donc c'est pour ça que vous avez une série de photos posées sur votre... Ouais. Et non par égo surdimensionné.
Non.
Bon, on verra si vous résistez à l'appel des
sirènes.
Au chant des sirènes.
Non, non, mais moi, j'ai envie de continuer à travailler mon écriture et c'est tout ce qui compte pour l'instant.
Mmh. Et pas être prisonnier de votre style.
Grandir.
Non, de pas être prisonnier de votre style.
Non, non, parce que le style change. Les Avenirs et Quelle nuit sommes-nous, c'est deux livres différents. Et ça évolue, l'écriture, c'est vivant pour moi.
La femme que votre héros rencontre sur l'île est une femme qui n'est pas du tout superficielle. Et il dit qu'il déteste la superficialité. C'est quoi la superficialité ?
Bah, la superficialité, c'est... Par exemple, si on prend l'exemple d'une comédienne, il peut y avoir deux sortes de comédiennes. Une comédienne qui n'est attachée qu'à son image et une comédienne qui est attachée à apprendre son métier et à se remettre en question. Donc d'un côté, il y a quelqu'un qui est prisonnier de son image, donc une chose superficielle, et en plus qui peut se détruire avec le temps. Et de l'autre côté, quelqu'un qui est tourné vers son intérieur, vers son travail d'acteur. Donc moi, ce que j'aime pas, c'est quand on est simplement sur l'extérieur.
Bien, je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle « Quelle nuit sommes-nous » à Filagoun, et c'est aux éditions Farago. Merci d'être venu nous voir ce matin.